C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, le siège d'Ottawa est terminé. On est en train de faire le ménage, comme on dit. On a installé des postes également de contrôle. Mais la grande question, après cet événement qui a duré 3 semaines, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'avenir de la démocratie?
Il y a beaucoup de gens qui font le lien entre ce qui s'est passé puis le Trumpisme. Est-ce qu'il va y avoir une coalition de groupes qui rejettent l'État, qui rejettent la démocratie, qui rejettent la science, qui rejettent toute forme d'analyse, puis qui font leurs propres analyses? Et qui les pousse. Est-ce qu'on est en danger de ça? Moi, je ne pense pas, parce que ce qu'on a vu à Ottawa, c'est une coalition de gens d'abord trop faibles en nombre, beaucoup trop faibles en nombre. Pas parce que leur camion prenait de la place, qu'eux en prenaient, on l'a vu vers la fin, là, ils étaient très peu nombreux pour une manif. Ensuite de ça, des gens qui ont pas un message qui les unit, puis ils n'ont pas un leader qui les unit, comme aux États-Unis où le racisme, pas juste le racisme, parce que c'est facile de dire le racisme, je ne veux pas tomber là-dedans, mais une forme de dénigrement de toute forme de pauvreté, puis d'une société qui est tellement à cran que ceux, les possédants, en sont arrivés à la conclusion qu'on ne pourra jamais rien faire pour les déposséder, puis que, et dès lors, il y a un schisme. Mais ici, il n'y a pas ce schisme-là. Il n'est pas là, il n'est pas à la même hauteur, il n'est pas à la même importance. Moi, ce qui m'a surpris, c'est pas tellement que ces gens-là crient leur ignorance entre eux, c'est qu'ils en font une religion. Tu sais, c'est que ces gens-là, tu sais, des gens ignorants, des gens qui suivent pas le débat public, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Là. Puis c'est correct, puis c'est pas obligé tout le monde de suivre le débat public, pas obligé tout le monde de croire à la science, pas obligé tout le monde de croire au gouvernement. Puis le gouvernement, il ment des fois, il ment carrément. Puis ça aide pas la démocratie. Mais ces gens-là, c'est différent. C'est des gens qui considèrent que ce qu'ils croient, que ce soit le nouvel âge, le complot, le quoi que ce soit, les théories scientifiques, ce qu'ils croient est à plus de valeur que ce qui est en cours dans la science ou dans l'information ou dans le savoir. La dame qui se promène puis qui pense que la méditation va sauver le monde, tu as le droit de le penser en toi, mais quand tu en fais un message public puis que tu penses que tu vas être entendu, c'est là que c'est fascinant.
Ta question, Paul, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'avenir de la démocratie? La réponse, c'est oui, et oui en lettres majuscules. Les trop peu nombreux, Luc, auxquels tu réfères, je te rappelle qu'ils ont occupé Ottawa pendant 24 jours. Ils ont conduit, ils ont menacé, ils ont demandé la démission de Justin Trudeau. Ils ont également bloqué les frontières, chamboulé l'industrie automobile du Canada. Alors, c'est pas parce qu'ils étaient trop peu nombreux ou pas assez nombreux qu'ils n'ont pas fait de dommages et de torts à notre économie. Puis également, le message qu'ils envoyaient, c'est ben on veut carrément, ben, je parle pas des manifestants, là, je parle des organisateurs. Ils avaient un agenda différent de plusieurs manifestants qui était celui de déstabiliser le gouvernement. Il fallait voir l'attrait qu'a suscité chez certains donateurs américains ce mouvement qui, puis plusieurs analystes chroniqueurs l'ont dit, tu as référé, Luc, là, la droite américaine qui est entrée au Canada. Il faut se dire, il ne faut pas avoir peur des mots. Ce qui m'inquiète, c'est de voir des parlementaires à Ottawa dire, ben, savez-vous quoi, on n'avait pas besoin de cette loi sur les mesures d'urgence. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que pendant ces 24 jours et ces blocus qui ont été faits à nos frontières, il s'agissait là d'une attaque frontale à notre démocratie. Puis oui, parfois, il faut recourir à des méthodes fortes pour protéger la démocratie. Lorsque tu vois des journalistes faire le travail sur le terrain, être obligés d'être entourés de bodyguards, de gardes du corps, tu dis, attends une minute, on commence à avoir un méchant problème. La moitié des manifestants qui ont résisté en fin de semaine se sont filmés, ont filmé l'évacuation sur les réseaux sociaux. Alors, ils n'ont peut-être pas de leader, Luc, mais les réseaux sociaux sont une formidable courroie de transmission pour leurs messages, et c'est grâce à ça qu'ils ont réussi autant se mobiliser. Ils ont récolté plus de 20 millions de dollars grâce à deux plateformes de financement. Tout ça se fait là via Internet. Alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter absolument? Et j'espère que cette loi va être adoptée. Mais derrière tout ça, parce que quand on se met à creuser, on se dit, pourquoi tout ça? Moi, je dis que les gouvernements doivent se préoccuper des inégalités dans notre société. On parle beaucoup d'inflation. Les inégalités, là, ça crée la pauvreté. La pauvreté, ça effrite notre tissu social et ça finit par miner notre démocratie. Tous les gens qu'on a entendus là, à Québec, à Ottawa, ils disent quoi dans le fond? Ils disent à leurs élites, vous ne nous écoutez pas. Vous voulez rien savoir de nos préoccupations. Ce qui vous intéresse, c'est votre agenda à vous. Alors, ça, ouais. Je pense qu'il faut être attentif à ce message-là.
Oui, plein d'accord avec toi sur ce point-là, Nathalie. J'ajouterais à ça qu'il n'y a pas juste l'inégalité, parce que là-dedans, il y a des gens qui sont arrivés avec des pick-up qui valent 80 000 $ là. Donc, il n'y a pas juste l'inégalité financière, il y a l'exclusion. Donc, il y a des gens qui s'excluent eux-mêmes ou des gens qui sont exclus du débat public parce qu'ils vivent comme ça. Ils habitent super loin de tout. Ça les intéresse pas. Ils sont pas connectés. Ils veulent pas ça. Puis là, tout à coup, ils décident, hey, je suis pas écouté. Bon, c'est difficile d'aller les chercher, ces gens-là. Mais je te trouve trop inquiète parce que
trop, mon cher Luc. Faut jamais l'être trop lorsqu'il s'agit de l'avenir de notre
démocratie. Oui, mais le fun de se promener en bicycle podcast, Nathalie. C'est ça l'affaire. C'est ça que je te dis. C'est qu'à un moment donné, quand moi, un matin, je suis venu en bicycle au travail, là, dans neige, puis le monde, puis salut, puis bonjour. Tu sais, faut pas être inquiet. Des fois, ça va marcher, tu vas te rendre. Mais regarde, on est plus proche de la Norvège que des États-Unis. On a beau être à côté des États-Unis, on est plus proche de la Norvège. La manif n'a pas réussi à percoler Toronto, Montréal, Vancouver, Québec, Calgary, Edmonton. Non, c'est des gens qui sont allés faire un siège, qui sont allés se regrouper parce qu'ils sont plus nombreux à Ottawa. Mais le reste du pays n'est pas accessible à leur désarroi. Oui, il faut s'inquiéter de eux et pour eux, de ce petit groupe-là qui a un pouvoir de nuisance, j'en doute pas, qui vont fermer un jour des voies ferrées, qui ont dit qu'ils allaient revenir, qui vont fermer d'autres villes, puis quand on va les checker à droite, ils vont aller à gauche. Oui, il faut s'inquiéter de ça comme d'un petit groupe minoritaire qui veut faire de la nuisance. Mais ça n'aura pas tant de croissance que ça dans la société. Ceci étant dit, il est vrai qu'il y a 35 % des gens qui ne votent plus, au fédéral puis au provincial. Voilà. Mm-hmm. Et dans ce 35 %-là, il y a un terreau. Il y a peut-être un 5 % un 10 % là-dedans qui sont extrêmement frustrés. Là-dedans, il y a des gens indifférents, des gens qui veulent pas, des gens qui écoutent la TV, qui veulent pas aller voter. Mais il y a peut-être un 5 à 10 % qui est un terreau possible de ce pouvoir de nuisance à venir.
Mais tu vois, Luc, tu dis exactement ce que beaucoup de gens ont dit du côté américain en sous-estimant la capacité d'attrait d'un Donald Trump, par exemple. Hein. On a sous-estimé la montée de cette grogne populaire qui a été canalisée, exacerbée par l'arrivée d'un Donald Trump, exacerbé depuis l'arrivée des réseaux sociaux. Il y a beaucoup moins de gens aujourd'hui qui lisent les journaux traditionnels, beaucoup plus de gens qui utilisent les réseaux sociaux pour s'exprimer. Alors, on polarise le débat, on exacerbe cette espèce de division dans notre société. Moi, Luc, je dis, il faut être vigilant. Parce que tu vois, peut-être que la population condamne, une grande majorité de Canadiens condamnent ce qui s'est passé, mais ils ont quand même fait un tort important à notre pays en très peu de temps. 24 jours pour chambouler autant l'agenda d'un gouvernement, l'économie d'un pays. Je me dis, une chance qui n'était pas 100 000, ça aurait été la fin du monde. Il s'agit de sécurité nationale, Luc. Tu ne peux pas minimiser cet aspect-là. Moi, je ne veux pas...
Non, mais j'ai juste une question, parce que le mouvement qu'on avait avec Trump a commencé bien des années avant.
Oui.
Puis il a pris son envol avec un gars comme Trump qui visait une institution, c'est-à-dire la présidence des États-Unis, puis il l'a eu. Puis il a misé sur toutes les frustrations, puis il a joué toutes ses cartes. Prenons le cas du Québec, la micro-société québécoise. Là. On s'en va en élection dans quelques mois. On a vu les sondages. J'ai regardé Éric Duhaime hier. Est-ce qu'il va canaliser cette grogne-là ou si ça va s'atténuer? Parce que c'est ça aussi l'enjeu.
Oui.
Tu sais qu'il y a
oui.
des Rimbaud qui débarquent à Québec puis qui font une fête avec des messagers des anges. C'est correct, là, c'est une fête foraine, là. Puis il y a un message, puis des gens, ils ont raison. Ils peuvent soulever des questions. Mais jusqu'à quel point... que tu vas tirer
regarde,
ce mouvement.
Ce que je disais tantôt, là, c'est qu'aux États-Unis, il y a des trucs qui marchent pas, des schismes, des failles. Ça ne marche pas décennie après décennie. Tu sais, depuis le New Deal de Roosevelt, on essayait de corriger la pauvreté aux États-Unis, on n'est pas arrivé à le faire. Alors, évidemment qu'il y a une radicalisation des deux bords. Des gens, des dépossédés puis des possédants. Les possédants qui disent, ça donne à rien de dépenser de l'argent sur ta gang-là, ça marchera jamais, ils sont violents, ils sont paresseux, ils sont ci, ils sont ça. Puis les dépossédés qui disent, on n'aura jamais notre chance. On nous donne jamais les outils. D'ailleurs, le taux de chômage, le salaire minimum est à la moitié du salaire minimum du Canada, c'est bien pour dire qu'ils n'auront jamais leur chance. Mais est-ce que ça va se produire au Canada? C'est ça, là. C'est pas politique, c'est économique. Est-ce que ce schisme-là, ça se pourrait. Ça se pourrait qu'à long terme, ça se produise. Mais en ce moment, c'est pas le cas. Puis,
Moi, je suis pas d'accord avec
avant,
toi.
Avant la fin de semaine, il y a un chroniqueur à peu près à Montréal qui a dit « Faites-vous-en pas, la police va venir à bout de ça en deux temps, trois mouvements. »
Non.
Puis c'est moi. Pourquoi? Parce que j'ai vu leur nombre. Parce que là, je me prononce pas juste après, je m'étais prononcé avant. J'ai vu leur nombre, j'ai vu leur désorganisation et je me suis dit « Ils s'en vont nulle part. »
Non, moi, je suis en total désaccord avec toi. Éric Duhaime, qu'on a tous écouté hier, à Tout le monde en parle, le Parti conservateur du Québec est à 53 000 membres. Il y a un nouveau joueur qui s'invite dans l'élection, ça s'appelle l'inflation. Éric Duhaime, oui, a canalisé, va continuer de canaliser cette colère. Parce qu'Éric Duhaime a dit hier, c'est, ben, il n'y a aucun des partis politiques qui a pris la défense des citoyens face à ces mesures sanitaires dont on n'avait peut-être pas tant besoin. Ce qu'il dit, dans le fond, c'est que le passeport sanitaire, c'est discutable.
Mais il n'a pas dit ce qu'il aurait fait, lui, par exemple.
Je suis d'accord, Paul.
Ça,
Un
petit mot, Nathalie, sur Éric Duhaime. Éric Duhaime va peut-être se faire élire le jour où il ne sera plus le même Éric Duhaime qu'il a été quand il était critique et qu'il était toxique. Il va se transformer pour être élu et donc, ça ne sera plus la personne toxique qu'il y a en ce moment.
Ouais, mais je vous le dis, tu minimises, Luc, la colère des citoyens. Tu parlais là des électeurs là. Il y a des électeurs qui écrivent, qui disent, moi j'ai arrêté de voter, mais savez-vous quoi, j'ai pris ma carte du PCQ puis je vais aller voter parce que il y a un chef de parti qui a pas la langue de bois, qui nous comprend. Ce gars-là, il dit ce qu'il a à dire, des convictions. On peut être en désaccord, en accord avec lui. On peut dire qu'il est toxique, on peut tout dire ça. Mais moi, ce que je dis, c'est allons voir derrière l'arbre quelle est l'ampleur de la forêt qui se cache derrière ce phénomène. On pensait être immunisé contre cette montée de la droite, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, mais les démocraties sont en danger. Puis il faut juste se rappeler et à tous les jours savourer le fait qu'on vit dans une démocratie. On fait partie des 6-7% de citoyens sur la planète qui ont la chance de vivre dans un pays où les libertés sont précieuses. Bien, il faut se lever debout parfois puis les défendre, ces libertés.
S'arrête pour la pause. Pour retour, le nombre de professeurs non qualifiés qui explose.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, le nombre de professeurs non qualifiés explose. C'est un phénomène qu'on voit depuis plusieurs années. On manque de profs, alors on retient des profs qui n'ont pas la formation pédagogique, qui ont une autre formation. Et à chaque fois qu'on amène la question, est-ce qu'on doit stopper cette pratique-là? Nathalie.
Bien, si le ministère le voulait, il ne pourrait pas le faire. Tu disais que ça dure depuis quelques années. Bien, effectivement, tu as raison. Depuis 2015-2016, il y a une augmentation de 146% du recours à ce qu'on appelle effectivement les tolérances d'engagement. En fait, si j'avais à résumer dans une phrase, là, c'est avoir les compétences pour enseigner, mais pas de brevet pour le prouver. Alors, il y a des enseignants, effectivement, qui ont des baccalauréats, d'autres moins. Le phénomène est tellement répandu, Paul, que le ministère de l'Éducation a décidé de réduire ses exigences. Alors, si vous avez un secondaire 5 et si vous faites la démonstration que vous voulez aller au cégep, là, vous êtes prêt à aller au cégep, vous pourriez même être engagé pour aller enseigner dans nos classes. Alors, c'est un phénomène qui est généralisé, qui est directement lié à la pénurie d'enseignants. Puis au moment où la pénurie d'enseignants se fait sentir, le nombre d'élèves augmente. Alors, on se retrouve dans une zone où on doit, depuis quelques années, imaginer d'autres façons d'embaucher du personnel enseignant parce que même la suppléance ne suffit plus. D'ailleurs, c'est un des arguments utilisés par plusieurs centres de services scolaires de dire c'est mieux d'embaucher un enseignant qui n'a pas son brevet ou sa licence pour enseigner plutôt que d'embaucher un suppléant parce qu'au moins les élèves vont pouvoir continuer d'apprendre. Il y a des solutions. Moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité dans ce dossier-là, mais encore faut-il que le ministère de l'Éducation, avec les facultés des sciences de l'éducation, se parle pour qu'on puisse effectivement développer des solutions dignes de ce 21e siècle.
Bien, la solution qui avait été proposée par le gouvernement Legault, c'était la fameuse maîtrise, habilitante, ou la maîtrise qui te permet d'enseigner, là, c'est qualifiante, la maîtrise qualifiante. Donc, tu as fait une maîtrise en mathématiques ou en biologie, mais tu n'es pas un enseignant, tu ne sais pas comment faire de la pédagogie, Dieu sait que ça existe, ça. Tu peux faire juste une maîtrise qui va te permettre pas de refaire ton bac en pédagogie, en sciences de l'éducation, juste une maîtrise, puis après tu vas enseigner. Le problème, c'est que il y a eu, quand ça a été annoncé, cette affaire-là, 940 personnes qui se sont proposé pour faire cette maîtrise-là, mais seulement 225 qui ont été acceptés parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour former les gens qui veulent faire ce programme-là en éducation. Alors, c'est un serpent qui se mord la queue, là. Il y a un problème de personnel à tous les étages. Le fait qu'on ait 4 000 sur 60 000, là, c'est 1 sur 15 quand même, hein, professeurs, donc, qui n'ont pas fait la maîtrise habilitante, là, la maîtrise qualifiante. Puis, le fait qu'il y en ait tant qu'il ne l'ait pas fait, c'est peut-être quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que au moins, le gouvernement n'a pas dit, ben toi, tant que tu n'auras pas ton papier, ton diplôme, laisse faire, je te mets de côté. Tu sais, on reproche toujours aux bureaucraties de faire ce genre-là, de dire, ouais, as-tu le papier avec le tampon puis la date? Là, au moins, on les a acceptés. Puis c'est tant mieux qu'on les a acceptés parce que, comme tu disais, il y a les suppléants. Quand tu mets devant une classe un professeur qui change à toutes les deux semaines, quand c'est pas à toutes les trois jours, ça peut pas être une forme d'enseignant. Et pire, il y a beaucoup de classes maintenant où il y a même pas de suppléant, c'est un surveillant. Tu parlais d'un élève qui a fait juste son cégep ou quelque chose comme ça. On le met devant la classe. Les enfants, sortez-vous des livres, des papiers, dessinez, faites quelque chose. Pendant ce temps-là, moi, je surveille pour que personne se jette par la fenêtre. Et ça, c'est l'autre affaire qu'on veut pas avoir. La troisième chose qu'on veut pas avoir, c'est l'incompétence. Quand tu es obligé de garder des professeurs incompétents, là, contre lesquels il y a des dizaines de plaintes, là, année après année, là, c'est même pas des parents qui se connaissent, c'est pas des enfants qui se connaissent, mais le même professeur collectionne les plaintes ou collectionne l'absentéisme à grande échelle, tu es obligé de le garder parce que t'as pas la possibilité, tu vas même pas engager le processus de documentation de dossier pour le mettre à la porte parce que tu n'en as pas pour le remplacer. Ben là, au moins, on a des gens qui lèvent la main puis qui disent « je vais l'enseigner ». Pour moi, c'est une assez bonne nouvelle.
Ben là, la situation est assez critique. Il y a quelques semaines, rappelez-vous, le ministre de l'Éducation a dit « on va faire appel à des parents pour, dans le fond, nous aider à répondre aux besoins qui s'expriment parce qu'on manque d'enseignants. » L'autre chose, c'est qu'il y a des solutions. Il ne s'agit pas de niveler par le bas et de réduire nos exigences, mais il s'agit pour le ministère d'Éducation, des facultés qui forment nos enseignants, à s'adapter à cette nouvelle réalité qui a émergé. En faisant les recherches, là, je constatais que juste à Montréal, la moitié des professeurs sur toute l'île de Montréal, la moitié des professeurs sont dits non qualifiés avec des tolérances d'enseignement. Donc, c'est plus une exception. Ce qui était une exception il y a quelques années maintenant est devenu presque une règle. Et les centres de services scolaires ont été obligés de faire toutes sortes d'acrobaties, effectivement, pour s'adapter. S'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, tu parlais de la maîtrise qualifiante. Ben, en Ontario, pour tôt que la formation qui dure ici 4 ans pour obtenir ton autorisation d'enseigner, ben là-bas, c'est 8 mois là, pour le volet pédagogie. Est-ce qu'on devrait faire un effort pour reconnaître davantage les diplômes étrangers qui sont détenus par les enseignants qui arrivent de l'étranger? Je parlais des facultés de sciences d'éducation qui doivent faire partie de la solution. Elles ont manifesté ce désir-là. Il y a déjà d'ailleurs des exemples qui se donnent, entre autres avec TELUC, avec l'Université de Montréal, avec l'UQAM, où on fait de la formation rapide, la formation à distance. On permet aux enseignants le soir, les fins de semaine, de parfaire leur formation pour ce qui est du volet pédagogie. Mais ça, il faudrait que le ministère de l'Éducation mette le pied sur l'accélérateur. Ça fait des années qu'on parle de ça. Puis il n'y en a pas de plan de match.
Je trouve que les éléments que tu apportes sont bons. J'en ajouterais un autre, reconnaître l'expérience terrain. Si tu as un de ces professeurs-là, qui est non qualifié, mais qui a réussi à garder son poste pendant une année, que tout le monde est d'accord avec son travail, tout le monde, ses collègues, ses partenaires, la direction, les parents, tout le monde l'aime. Tu vas te dire, ah, faut absolument que tu ailles faire ta maîtrise qualifiante. Ben non. Lui, peut-être que tu peux dire, approved. Il est bon. Si on l'a essayé, puis il est bon. Exact. Sur les 4 000, il doit en avoir pas mal là-dedans.
Mais s'il n'a pas sa maîtrise, là, qu'il peut quand même obtenir de l'aide, par exemple, d'une faculté des sciences d'éducation qui dit, ben, on va t'accompagner pour parfaire. Tu n'auras peut-être pas ta maîtrise, mais en bout de ligne, tu vas avoir fait la démonstration que tu as ce qu'il faut pour enseigner.
Mais je me souviens d'un cas d'un prof d'éducation physique qui m'avait écrit, puis qui avait son bac, il avait un diplôme, mais il n'y avait pas de maîtrise, ou il n'y avait pas de cours en pédagogie, puis que là, ça a niaisé pendant des mois, parce que là, il dit, je donne des cours ailleurs, tu sais, je donne des cours d'éducation physique, être capable, mais disons que ça a été un long processus.
Ben c'est ça, parce que tu sais, la différence entre un bon et un mauvais prof, là, comment tu fais pour le savoir, comment tu documentes c'est qui un bon prof, ça prend du temps, hein, parce que des mauvais profs, là, il y en a comme dans les autres domaines, il hein, y en a, tu sais, un pourcentage, et c'est pas parce qu'ils sont allés à l'université qu'ils sont bons. C'est pas parce qu'ils ont eu leur maîtrise qualifiante qu'ils sont bons. Et si t'en pognes un bon, ben garde-le. L'autre affaire, Si on veut garder les profs, évidemment qu'il faut. On a là, le gouvernement a fait deux beaux gestes. Il y a la caisse, il paie pour la formation, donc maintenant il va y avoir des bourses en formation. Ils ont augmenté les salaires, 14,8% d'augmentation oui. pour quelqu'un qui arrive en bas de l'échelle au début de sa carrière. Il reste un geste à faire, c'est la charge de travail liée au cas difficile dans les classes difficiles. Donc ça, ils perdent des profs là, comme des mouches, ça tombe comme des mouches, mais ils persistent avec dire oui, on va intégrer tout le monde dans une classe sans soutien avec la professeure que tout à faire, mais non, ça ne marche pas.
Et ajoute à ça les ratios prof-élèves, qui sont de plus en plus élevés. C'est comme les ratios patients préposés ou patients infirmières. C'est un peu la même dynamique sur le plan dans nos classes. Mais tout comme toi, Luc, tu pourrais déposer ta candidature pour devenir enseignant avec tout ce que tu as comme compétences.
Écoute, j'aimerais ça, moi, un cours par semaine. Là.
Prof, d'écologie?
Ben de quelque chose.
D'urbanisme.
Philosophie, urbanisme. Oui,
On vous retrouve demain.
C'est 23.